quand on reçoit le diagnostic, j'allais voir une personne et qui me dit en fait, mais finalement, ce que t'as, c'est pas rien. Et si t'as pas une bonne hygiène de vie, bah tu vas pas t'en sortir.
Vous écoutez La Perche, le podcast de la Maison Perchée. On espère que ce nouvel épisode vous plaira.
Aujourd'hui, on est avec Yannick, Diane et Anastasia et on va parler de la question de l'hygiène de vie qui est souvent citée comme un facteur très important du rétablissement. Et donc, on va se demander ensemble aujourd'hui comment on construit une bonne hygiène de vie, comment on s'y tient, qu'est-ce que c'est qu'une bonne hygiène de vie, est-ce qu'il y a une bonne hygiène de vie. Et on va commencer par un petit tour de présentation. Diane, si tu veux commencer.
Ouais, carrément. Bah, écoutez, moi c'est Diane, j'ai 27 ans. Je vis avec un trouble bipolaire et je suis père aidante à la Maison Perchée depuis bientôt un an. Et voilà.
Anastasia.
Oui, bonjour à tous. Anastasia, j'ai 40 ans et je vis avec un trouble bipolaire de type 1.
Yannick.
Je m'appelle Yannick, j'ai 32 ans. Je suis à la Maison Perchée depuis novembre 2021 et je suis père aidant et je m'occupe de la modération sur Discord.
Et donc, on va parler d'hygiène de vie. Donc, ça peut un peu tout et rien dire, on est d'accord. On va peut-être faire une topologie, le décliner sous différentes thématiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut peut-être commencer déjà par peut-être le sommeil. C'est quelque chose dont on parle souvent, les médecins parlent souvent. Il faut bien dormir. Il faut retrouver un rythme de vie adéquat pour vivre avec le trouble, en fait, pour pas se laisser déborder. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette question du sommeil, et comment est-ce que vous avez réussi à le gérer, le dompter?
Bah écoute, personnellement, j'ai toujours été de nature insomniaque depuis que je suis enfant et tout. Et justement, le mot dompter, par exemple, ce serait assez compliqué à l'estimer ainsi parce que plus tu tentes de le dompter, finalement, plus ça devient compliqué de l'obtenir et notamment d'obtenir un sommeil sain. Et je tiens à dire vraiment que dans la société dans laquelle on vit, on nous demande d'être toujours très productif et du coup, avoir un sommeil très récupérateur, souvent court, et pour pouvoir enchaîner toutes les activités. Et par exemple, pour ma part, selon les phases d'humeur dans lesquelles je peux être, j'ai plus ou moins besoin de sommeil. Et je peux passer de 6 heures, 5 heures, à, quand je suis un peu en up, à 9, 10, 12 heures de sommeil par nuit pour récupérer de mes journées, tout ça. Et en fait, tout l'enjeu, c'est d'être à l'écoute de ses besoins. Et c'est vrai que c'est potentiellement compliqué à gérer un sommeil en adéquation avec les activités du reste de la semaine. Et donc, ouais.
C'est drôle parce que on dit dompter, et moi, ça fait plusieurs années maintenant que je dis la maladie que je dompte la bête. Et donc, le sommeil fait partie des choses auxquelles je fais très attention. Je sais, par exemple, que je ne peux pas sortir de soir de suite. Me coucher à minuit et le faire le lendemain, je me mets à risque. Donc ça voilà. Et par exemple, quand je sens que je suis un peu up et que j'arrive pas à m'endormir, etc., j'hésite pas clairement à m'aider avec les cachets que me donne ma psychiatre, parce que je sais que il faut que j'ai un record de 8 heures de sommeil par nuit. Et donc j'ai mon application sur mon téléphone et je regarde régulièrement. Et puis voilà, quand on voit les statistiques, un peu les données sur le téléphone, on voit parfois que le temps de sommeil baisse. Mais moi, je sais que le sommeil, c'est mon top 3 de bien-être, vraiment.
On a hâte de savoir quels sont les deux autres. Et toi, Yannick?
Moi, je suis content quand je dors, déjà. Quand il n'y a pas de réveil, on va dire, durant la nuit. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de rituel vraiment par rapport à tout ce qui va être sommeil ou autre. Il m'arrive des fois, je suis éveillé durant la nuit, j'arrive pas à m'endormir, mais j'ai pas de mécanisme où je vais pas me dire, j'ai pas un rituel, par exemple, avant de me coucher, faut lire ou autre. Non, j'arrive pas. Je adapte malheureusement des écrans, et même si je sais qu'il y en a qui disent qu'il faut lire ou autre, c'est.
T'as pas essayé?
J'arrive pas, en fait. Okay.
Je tiens à dire là-dessus que toute la question de la ritualisation du avant du sommeil et même sur le reste des aspects d'hygiène de vie, il y a beaucoup cette notion de « il faut faire, il faut faire ». Et je pense qu'il y a des choses qui marchent pour toi et pas pour les autres. Et moi, par exemple, c'est le fait de me mettre dans un cocon avant de dormir et tout, de me sentir vraiment le plus tranquillisé possible. Et ça passe par plein de choses, que ce soit la musique ou pour le coup, la lecture pour ma part. Mais c'est pas forcément un truc que j'arrive tout le temps à faire. Et en fait, le truc, je pense, une des grosses erreurs que je fais en tant qu'insomniaque, c'est que quand je n'arrive pas à dormir, je reste clouée au lit à ne rien faire et à attendre. Et il y a toutes les pensées qui peuvent être très intrusives et très insupportables en ce sens. Mais il y a ce truc que je n'arrive pas à faire, c'est de sortir de mon lit et de faire autre chose. Et si je le fais, c'est pour être littéralement dans des activités qui vont me prendre des heures et que je vais être en kiff, mais qui peuvent me mettre en frénésie. Donc ça me met en... Enfin, disons que j'en ai peur de rentrer là-dedans. Et du coup, j'ai plus tendance à rester voilà, cloîtrée dans mon lit et juste à attendre, ce qui est hyper mauvais parce que du coup, tu culpabilises encore plus de dormir moins. C'est que la fatigue du lendemain va être là et que tu auras du mal à l'assumer. Et en plus, je sais que si j'arrive moins à dormir, je peux rentrer en phase si je commence à avoir un rythme de sommeil qui est moindre. Et comme toi, Anastasia, le fait est que j'ai une montre qui suit mon sommeil et ça me permet d'avoir un recul sur ce qui se passe au quotidien par rapport à ça, quoi.
Et je trouve ça intéressant parce que dans ce que vous dites, Yannick et Diane, ça soulève la question de la pression qu'on se met par rapport au sommeil en l'occurrence, mais à l'hygiène de vie de façon générale. Et c'est un truc que vous ressentez, la pression que vous-même vous pouvez vous mettre ou que l'extérieur, la société, peut-être les médecins.
Ouais, médecin. Et puis oui, non, mais moi, c'est vrai que sur le sommeil, oui, il y a une sorte de vraie pression que je me mets quand je vois qu'il est 22h, faut que j'aille me coucher. Mais le passage de la vie à la chambre à coucher, ça a été souvent source d'angoisse pour moi. L'idée de ne pas m'endormir, l'idée de cogiter, etc. Voilà.
C'est un équilibre hyper délicat à trouver. Et si on est obligé de prendre des médicaments pour y arriver, c'est comme le reste, en fait, hein, des troubles. On n'est pas content d'en venir là, mais si ça peut aider. Et pareil, moi, j'ai un peu cette idée-là, enfin, cette approche aussi, quoi. J'ai pris du temps et savoir que c'est vraiment important pour moi, parce que pareil, parfois, je vais faire la fête, pas dormir. Et en fait, je vois comment ça se répercute les jours après. Alors que ça fait partie de moi-même aussi, de ma vie, mais j'essaie de limiter, voilà, une fois de temps en temps. Et de dormir, voilà. Ou de lire un bouquin un peu dur, quoi. La philo.
Lacan.
Ouais, lisez Lacan, vous allez dormir.
Oui. Direct.
Mais pas une page.
Tous les somnifères.
Franchement, je conseille. Foucault, Lacan, tout ça. Deleuze. Une page, c'est
Derrida,
dodo.
Effet garanti.
Mais c'est intéressant ce que tu demandais, poser comme question, Anna, sur le fait de la pression côté médecin. Alors moi, c'était pas directement médecin, mais c'était ma psychologue qui, quand je lui avais parlé de mon diagnostic ou autre, elle me dit « Mais vous savez, vous avez été diagnostiqué bipolaire, donc du coup, il va falloir limiter l'alcool, le café, le thé... au niveau des couchers, va falloir se coucher à des heures stables, le lever aussi. » Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais sinon, est-ce que j'ai le droit de vivre ? Est-ce que j'ai le droit de vivre ?
T'avais quel âge quand on t'a dit ça ?
Moi, j'avais 27 ans à peu près.
Ouais, tu dis ça, voilà.
27 ans ?
En fait, c'est un peu infantilisant.
Ouais. Ben, c'est totalement infantilisant. Et en plus, quand on reçoit le diagnostic, là, j'allais voir une personne, justement, qui est censée un petit peu m'accompagner, et qui me dit, en fait, mais finalement, ce que t'as, c'est pas rien. Et si t'as pas une bonne hygiène de vie, tu vas pas t'en sortir. En ce moment... L'hygiène de vie, elle n'est pas exceptionnelle, mais je vis très bien. C'est juste en acceptant que, ok, s'il y a ces petits à côté, c'est parce que j'ai fait des choses qu'il fallait plus ou moins ou autres, qui étaient en inadéquation avec une hygiène de vie. Mais qu'est-ce que c'est l'hygiène de vie ? C'est quelque chose qu'on accepte soi, en fait, au final. faut que ça soit en adéquation avec soi.
C'est ton propre équilibre.
C'est ça.
Et c'est vrai que quand on te pose le diagnostic, c'est déjà assez violent. Et en plus, on te dit, ah bah là, ça va pas du tout, hein, faut tout changer.
Si tu tiens pas ma main, si vous enlevez le lien entre ma main et la vôtre, vous allez rechuter. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment ce sujet. En fait, c'est si l'hygiène de vie n'est pas respectée, eh ben ça remet en cause limite la stabilité, quoi, le rétablissement.
Et j'ai l'impression que si les médecins présentent trop d'interdits à la fois, finalement, on les prend peut-être moins au sérieux. Moi, je sais que une de mes meilleures amies est épileptique. Pour le coup, c'est différent. Mais quand elle a été diagnostiquée, on lui a dit plus de café, plus de thé, plus d'alcool. Et en fait, c'était tellement radical. Et sans aucune empathie par ailleurs de la part du médecin, que du coup, elle n'a rien appliqué de tout ça. Et donc, c'est hyper contre-productif.
Là, c'est tout l'enjeu de l'accompagnement. Il y a un accompagnement efficace, il se fait aussi par là, du fait de pas faire tout d'un coup. Par exemple, moi, ça résonne ce que tu disais là-dessus, sur le fait que l'impact du diag avec ce truc de ok, il faut que je sois dans une vie monacale maintenant et qu'il n'y a que comme ça que je pourrais trouver un équilibre. Alors oui, le sommeil est un fondement de mon équilibre aujourd'hui, je le sais, mais ce n'est pas le seul. C'est juste une des parts de mon rétablissement. Il y a tellement d'autres choses qui rentrent en compte. Et pour moi, l'hygiène de vie, ce n'est pas seulement le sport, l'alimentation et le sommeil. C'est aussi les relations sociales, c'est aussi la créativité, c'est aussi le sens qu'on met à sa vie personnelle. Personnel, professionnel, tout ça, et tous ces imbrications font que à la fin tu te sens apaisé, parce que pour l'hygiène de vie ça reste l'apaisement, enfin des choses qui font sens pour soi et qui font du bien, quoi. Et la notion de plaisir est tellement tellement importante,
bien sûr. Et c'est surtout quand on nous le dit au début, il y a quelque chose de là de très vertical, et on, comme tu disais, on tombe vite dans le déni parce que personne ne veut appliquer ces règles là parce que déjà on nous dit pas comment le faire. Et ensuite, c'est beaucoup trop inatteignable.
Et comme tu dis, la notion de plaisir, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Parce que si on te dit, bah voilà, tu vas devoir te priver de tous les plaisirs que t'as, bah c'est un repoussoir énorme. Mmh. Alors que si on te dit, bah voilà, il faut faire attention, mais tu peux quand même t'autoriser des petits plaisirs de temps en temps, ça fait une différence.
Mais c'est clair, parce que surtout quand il y a une des comorbidités qu'on voit souvent avec nos troubles, c'est les problèmes des addictions et tout. Et tu peux pas dire à quelqu'un direct, tu arrêtes, en fait, et t'inquiète, ça ira mieux. Non, t'as besoin d'un réel accompagnement, et tous les psychiatres sont pas forcément spécialisés là-dedans, donc aussi se tourner vers d'autres soignants. Donc effectivement, toute une équipe doit se mettre là-dessus. Oser demander de l'aide, c'est tout un cheminement énorme, mais en fait, avoir la notion d'équilibre dans tout ce qu'on fait, ça reste quelque chose de hyper compliqué, et du coup, être accompagné là-dessus, ça peut être très cool.
Mmh. Il y a aussi beaucoup de maturité pour s'engager là-dedans, donc je pense que si vous êtes là autour de cette table, c'est que vous avez au moins trouvé quelques clés et que vous êtes prêt à en parler, mais... On s'intéresse un peu à ce chemin, quoi. Qu'est-ce qui vous a fait passer du déni, en tout cas, ou de moments où ça allait pas, où c'était un peu, voilà, ça partait dans tous les sens, et le moment où c'est un peu plus cadré. On parle pas de vie monacale, mais en tout cas d'un équilibre.
Personnellement, j'ai mis trois ans et demi à arrêter d'être abasourdi par le diagnostic et à mettre en place des petites choses. Après, au niveau médical, j'ai pas eu vraiment d'accompagnement. Moi, on me dit, ma psychiatre me dit, vous pouvez vivre normalement. Oui et non. Je bois plus d'alcool depuis bientôt 3 ans. Mais je pense qu'il faut avant tout pas se mettre la pression et se laisser le temps, en fait, de se découvrir dans la maladie et de se dire, bah tiens, j'essaie ça et ça fonctionne pour moi. Très clairement, le sujet de l'alcool, moi, ça m'a vraiment aidée, parce que alcool égale fatigue. Quand je sortais le lendemain matin, je me retrouvais pendant 24 heures limite dans des situations un peu hypomaniaques, très très compliquées. Et puis ça, petit à petit, je l'ai réalisé, etc. Mais pas trop se mettre la pression et se faire accompagner.
Et justement, pour arrêter l'alcool, parce que c'est pas rien, même pour quelqu'un qui n'a pas d'addiction particulière, c'est quand même ça demande une volonté assez forte. J'imagine que c'est pas facile. Est-ce qu'il y a des choses qui t'aident pour maintenir cette discipline qui est quand même assez...
Il y a des bars dans Paris où il y a des anciens sommeliers qui se reconvertissent en sobreliers, qui vous proposent des cocktails sans alcool. Et c'est vrai que moi, je me suis réfugiée là-dedans, parce qu'en France, socialement, quand vous ne buvez pas, Voilà, ça renvoie à plein de choses. Voilà, dans ma famille, voilà, ça a braqué quelques personnes. Ah bon, tu bois plus, pourquoi?
Et du coup, tu réponds quoi quand on te dit ça?
Tout dépend du public que j'ai en face de moi, mais globalement, voilà, c'est pour me sentir bien, ma santé. Je parle de poids que j'avais pris à cause de l'alcool, que je voulais maigrir. Enfin, ça dépend vraiment du public, mais au fond, moi, je sais que c'est pour ma santé. Et en fait, je supportais vraiment plus. Alors, j'avais pas une consommation quotidienne, etc. Mais plus on avançait et plus, quand je buvais, ça devenait vraiment limite. Et c'est surtout les lendemains. Qui était très très dur, où vraiment avec des rires, des larmes, clairement ça avait un effet très très néfaste sur moi.
Donc c'était dissuasif quoi, au bout d'un oui. moment. En fait c'est ça, c'est la perspective du lendemain qui te fait
exactement.
Tenir ton truc. Quoi.
Et c'est ça qui, ouais, c'est exactement qui me fait tenir aujourd'hui. Et toutes ces boissons formidables que je conseille et qui permettent d'avoir un verre à la main
bien
et
sûr.
Que personne se dise ah bon, mais.
Tu nous partageras tes adresses.
Oui.
Et ça c'était une décision. Qui venait de toi-même ou ouais. du médecin?
Non, c'est moi.
C'est toi.
C'est
toi.
Moi. Ouais, ouais. Vraiment cette prise de conscience de l'effet que ça avait sur moi, la fatigue, le poids, pas avoir les idées claires le lendemain. J'ai un enfant, faut être 13 ans, ouais, dès 7 heures du mat. Donc
plutôt des bonnes raisons.
Oui.
On valide.
Les résolutions sur lesquelles on se tient le plus, c'est celles qui viennent de nous en fait. C'est ça. Et donc du coup tu peux être fier de toi enfin par rapport à ton cheminement sur ça parce que enfin tenir et avoir la force de tenir enfin je trouve ça super.
Effectivement, c'est tout l'enjeu parce qu'à partir du moment où on met un changement positif dans sa vie, enfin tout du moins ce qui t'apporte du positif, ça peut venir que de soi et du coup le c'est pour ça que toutes les injonctions notamment sur l'hygiène de vie de faites ça, vous vous sentirez mieux, ben potentiellement les gens n'iront pas forcément dedans même si c'est du bon sens et tout parce que ça doit vraiment leur parler intrinsèquement et avoir un impact positif sur leur quotidien. Quoi.
Ouais, toute la psychoéducation en fait, ce qu'on fait ici et ça prend tellement de temps d'avoir ces discussions là de que ce soit en fait intégré, que ça remonte et que ce soit un truc personnel.
Et je voulais juste rebondir sur qu'est-ce qui a été le déclic en fait. En fait le déclic c'était essentiellement en janvier 2023 où je me suis dit que fallait que je prenne soin de moi. J'ai même appelé ma société, je dis à ma RH, je dis bon voilà, je me mets en arrêt parce que je prends soin de moi. Elle a accepté, hein. De toute façon, elle avait pas le choix. Donc. et après, du coup, pour prendre soin de moi, il fallait que je me fasse suivre par une psychologue. Donc j'étais volontaire pour me faire suivre par une psychologue. Il y a des fois, on me disait oui, il faut que tu te fasses suivre. Non, là, j'étais volontaire, donc ça a fonctionné. Et ça a emmené aussi à une rupture sentimentale. Et ça aussi, ça fait partie du déclic où je me suis dit on enlève les choses néfastes de sa vie. Et on repart vers l'avant et voilà.
Et qu'est-ce qui a mené à ce moment où tu t'es dit il faut que je prenne soin de moi? Est-ce qu'il y a eu un événement, une conjonction d'événements?
Un trop plein, je pense. Enfin, que ça soit au niveau du travail, au niveau perso, où c'était en mode j'y arrivais pas quoi. Et donc du coup il y a eu le petit déclic que j'ai enclenché. Et après, bon, c'est tout le cheminement que j'ai pu faire avec ma psychologue ou autre. Mais ce qui est bien, c'est de pas, en fait, cette sensation de se dire « Ah bah, je fais ça pour l'hygiène de vie. » Et c'est là où je parlais de lâcher prise tout à l'heure. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que ça soit fait inconsciemment.
C'est naturel comme ça, un peu organique.
C'est ça.
Ouais, c'est ton chemin quoi, qui t'appartient. Mmh.
Il y a un truc quand même qui... Quand en fait on est obligé d'attendre d'être au bord du gouffre pour prendre soin de soi et tout, ça montre que quand en fait déjà on n'a pas forcément la possibilité de le faire avant avec les conjonctures notamment professionnelles qui te demandent de te donner corps et âme à un projet et pas forcément à être équilibré avec ça avec toi-même. Mais ce que je veux surtout dire c'est qu'en fait l'hygiène de vie c'est et surtout en avoir une qui a vraiment un impact positif sur soi, ça demande quand même du temps. Et je pense que le temps, tout le monde n'en a pas forcément ce luxe. Et c'est important à dire parce que ça participe à nouveau sur cette culpabilisation extrême d'avoir une bonne hygiène de vie parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent aller à l'encontre d'une bonne hygiène de vie, justement.
Sur ce sujet un peu de luxe, moi, ça me fait penser à un truc qu'on dit souvent, il faut une alimentation saine. Avoir une alimentation saine, je suis désolé, ça coûte quand même cher.
et où ça prend du temps. C'est-à-dire oui, que aussi, tout le monde ne peut pas se cuisiner soi-même ses repas à partir de, des bons petits produits achetés au marché local.
Oui, c'est ça.
Et en fait, donc souvent acheter un sandwich, bah, c'est le temps qu'on a.
Oui, parce que justement, si tu veux une alimentation saine, c'est potentiellement, quand tu parles du marché, c'est à certains horaires, c'est pas forcément juste à côté de chez toi, il faut que tu fasses plusieurs lieux pour avoir tout ce que tu veux potentiellement, et aller en grande surface, typiquement, peut être plus simple, mais aussi pour les prix, surtout avec la conjoncture économique actuelle et l'inflation, enfin, c'est de plus en plus compliqué d'avoir une alimentation qui est variée, surtout.
Et l'alimentation, c'est une partie importante de votre hygiène de vie.
Mais en fait, le truc, c'est que avant mon diag, je tentais de trouver l'équilibre par le biais de mon hygiène de vie, et principalement avec mon alimentation, sauf que la problématique et l'écueil qui peut souvent arriver, c'est que c'est devenu très obsessionnel, et à partir du moment où c'est devenu obsessionnel, ben, je suis rentrée dans des trous du comportement alimentaire qui ont duré 7 ans. En fait, je me disais que l'alimentation étant notre microbiote, notre intestin étant notre deuxième cerveau, je me disais que vraiment si je, quand j'étais en dep notamment, ou même en up et tout, et très excitée et tout, de me dire que seule l'alimentation pouvait pas régler tous mes soucis, mais tout du moins d'être tellement une belle base que j'allais juste aller mieux, mais ça, évidemment, ça ne suffisait pas du tout. Et puis surtout, j'avais un rapport très 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 malsain avec, du coup.
Et donc, tu as réussi à sortir de ces TCA grâce à un accompagnement de professionnels de santé.
Ouais, grave. Et le lien avec le corps aussi. Parce que j'étais complètement déconnectée de mon corps. En fait, je pense, parce qu'en fait, je suis végétarienne depuis 10 ans. Enfin, j'étais végane pendant 3-4 ans. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais autant intéressée par l'alimentation, parce que la variété de l'alimentation végétale est extraordinaire. Et du coup, c'était super hein, que de rentrer là-dedans. Mais en fait, d'avoir été trop drastique, d'y aller trop d'un coup, ça peut être très violent pour le corps et même pour l'esprit et tout. Et du coup, je suis rentrée trop dans une dynamique extrême. Et aujourd'hui, je me permets beaucoup plus de faire des écarts, entre guillemets, c'est-à-dire de manger des œufs, machin, machin. Du coup, j'ai plus le truc de interdit.
C'est bien de sortir un peu de ce côté très absolu.
Et binaire aussi.
Et binaire, c'est ça.
Je pense que tout l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre. Et moi, dans mon envie de contrôle, parce qu'il y a beaucoup... En fait, quand tu contrôles rien dans ta vie, genre contrôler ton hygiène de vie, ton alimentation, ton corps, le sport, machin, ça te donne une illusion de contrôle intégral sur l'ensemble, quoi.
Et Yannick, Anastasia, vous, l'alimentation, c'est une part importante de votre hygiène de vie ?
L'alimentation, elle fluctue avec les différentes phases dans lesquelles je me trouve. Donc, quand je suis up, j'ai pas faim. Donc, je mange rien. Voilà. Donc, je mange rien et je bouge tout le temps. Donc, je perds plein de kilos. Ensuite, quand je vais pas bien, je me réfugie dans des trucs industriels, etc. C'est un peu là une spirale. Et quand je vais bien, essayer de cuisiner des choses qui font du bien. Après, il y a la question des coûts qu'on évoquait plus tôt. Mais en fait, c'est comme s'il y avait trois phases différentes dans mon alimentation, donc c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un sujet qu'il faut que j'essaye de creuser, parce qu'on peut pas être dans la maîtrise de tout, mais en tout cas c'est ce que j'observe vraiment.
Trois régimes quasiment. Ouais.
Et moi j'ai l'impression qu'il y a que dans les phases de Timmy, enfin phases normales, qu'en fait les choses qu'on met le plus en place sur le long terme, c'est dans ces moments-là, parce que en fait, quand t'es trop en dep pour pouvoir juste bouger et te faire à manger, c'est déjà trop. Si en face de Timmy, mettons, tu vois, t'as des plats en mode tellement simple. Parce qu'en fait, je reste dans mon truc où j'ai l'impression que l'alimentation, si je commence à vriller, si mon hygiène de vie, elle part complètement en live, je vais encore plus descendre. Il y a un truc où, genre, ça me maintient de garder une bonne hygiène de vie. Si j'arrive à avoir même des repas super simples, mais équilibrés, Même psychologiquement, je vais me dire, ok, j'en suis encore capable. Donc genre, peut-être j'irai pas plus bas, tu vois. Et en fait, en E, par exemple, le fait de pas assez manger et tout, genre, je m'oblige à manger, ça me demande énormément d'efforts et tout, machin, de au moins avoir une, tu sais, un petit déj. C'est avec les MTCA que je l'ai appris de manger à des heures fixes, machin. Mais genre, de au moins manger un tout petit peu pour que ton cerveau, il se dise, ok, là, il se passe quand même quelque chose, il faut que je garde une activité normale, entre guillemets, tu vois. Je sais pas si ça fait sens.
Tu m'en diras plus, parce que c'est vrai que quand dans ces cas-là, moi, je commence à manger très peu et en fait, je bois toute la journée.
De l'eau.
De ouais. l'eau, de l'eau, de l'eau, des tisanes, j'ai soif en fait. Et en fait, le up m'a soif terriblement. C'est bien quand on réussit à prendre soin de soi, on est timide, à se faire des petites choses qui nous font plaisir, etc., sans excès, en fait, t'es ni trop haut, ni trop bas, ça fait du bien.
Ouais, mettre en place des routines, quoi, aussi, apprendre à cuisiner des plats sains, tout ça. C'est dur, hein, c'est dur. Il faut devenir un peu expert. En nutrition, en plein de choses.
C'est ça, en plein de choses.
Et toi, Yannick, est-ce que comment est ton rapport à l'alimentation en ce moment ?
Je vais switcher aussi sur un autre sujet qui est important, le sport. Mais quand je rentrais du foot, généralement, je passais devant deux enseignes où généralement, ça se dit, est-ce que je rentre chez moi et je me fais à manger ou je ramène quelque chose à manger chez moi ?
De type kebab, quoi.
Voilà, de ce type-là, grande ancienne fast-food américaine. Ou autre, quoi.
Wink, wink, wink.
On vous voit.
Donc voilà. Et généralement, c'était complètement pas du tout productif parce que j'avais fait un gros effort physique et c'était en mode j'ai fait un gros effort physique, donc je peux me permettre de mal manger. Ce qui est complètement absurde. Mais bon.
Mais compréhensible. Enfin, je pense que beaucoup de gens fonctionnent
mais
comme
parce
ça.
Parce qu'il y a beaucoup le truc avec le sport sur la notion effort récompense. Et du coup, on comme là, en l'occurrence, cette grande enseigne peut être alimentation plaisir. Du coup, tu te le permets. Et en vrai, c'est ok, tu vois, genre.
Ouais, vraiment. C'est ok.
C'est ok. De temps en temps.
Ouais. Voilà, avec modération.
De temps en temps, mais bon, deux fois par jour, quand on passe devant à chaque fois. Enfin, non, deux fois par semaine.
C'est à chaque fois que tu vas au sport.
Non.
Deux
fois par jour, non.
On le déconseille à nos auditeurs.
Voilà,
il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
Comme on disait tout à l'heure, il ne faut pas être trop violent avec soi-même. Quoi. Mais en même temps, se mettre des... Moi, j'appelle peut-être ça une rambarde un peu. Enfin, tu vois, une sorte d'accroche, quoi, pour... pas trop monter, pas trop tomber quand on n'est pas bien, mais un truc auquel on peut se raccrocher, tu vois.
Ou un propre slogan dans sa tête pour se dire non. Tu le fais pas, c'est pas bien.
Just don't do it.
Just don't do it. Je la garde. Je me dirai la prochaine fois que j'ai envie de commencer une série à 1h du mat. Just don't do it. Et bah justement, puisque tu nous tends cette perche, n'est-ce pas, du sport, c'est un autre sujet de l'hygiène de vie. Est-ce que...
Une autre injonction,
mais qui peut aussi être un plaisir d'ailleurs. Et c'est comment votre rapport au sport ? Toi, tu parlais Diane yoga et toi foot. Anastasia, je sais pas, t'en as pas encore parlé.
Si, moi j'ai trouvé un petit club formidable à côté de chez moi, un petit atelier qui fait une nana formidable qui fait des pilates. Et c'est la première fois que je suis aussi assidue envers une activité sportive. Parce qu'en fait, ça allie il y a beaucoup de respiration. Quand je ressors, je suis apaisée, même au niveau du corps, enfin les muscles s'allongent, ça fait beaucoup de bien. Donc ça, c'est un petit peu ma bouée de sauvetage, vraiment.
Il y a un côté un peu méditatif, c'est un peu comme avec la respiration.
Oui, complètement. Complètement. Donc moi, je conseille des activités dans lesquelles on respire. Voilà.
En fait, moi, je pense que ce que je comprends aujourd'hui, c'est ce dont j'ai besoin, c'est de mouvement et de manière générale du mouvement plaisir. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas vraiment une pratique en tant que telle, parce qu'en fait, on pense souvent que pour avoir tel résultat, faut faire tel type de pratique sportive. Et s'il y a une volonté de changement corporel, pourquoi pas, mais ça peut devenir du coup une injonction, effectivement, même en fait, une corvée de faire du sport. Et en fait, faut peut-être revenir avec cet esprit d'enfant. de vraiment genre bouger pour bouger. Et parce qu'ils ont, il y a ce trop plein d'énergie de l'enfant qui a besoin de se, juste de se lâcher et tout. Et peut-être reprendre ce truc en mode on s'en fout de ce qu'on fait et on y va. Mais après, je pense que c'est compliqué d'avoir cette notion plaisir. Par exemple, pour ma part, j'ai beaucoup de mal à faire du sport en public à cause d'anxiété sociale et même dans la rue encore plus. Mais par exemple, une amie m'emmène, on va ensemble à l'escalade en ce moment. Enfin, très peu, mais on y allait hier. Et en fait, c'est un truc qui me fait trop du bien, c'est à quel point je me sens en sécurité avec elle, grâce à elle, et que le reste s'efface, en fait. Et qu'on prend juste du plaisir à, même si on est débutante et que, et que c'est pas incroyable ce qu'on fait, mais que, au moins, on se lâche. Et c'est vrai que ça fait un bien fou là-dessus. Du coup, trouver, ouais, des trucs plaisir.
Mmh. Et je trouve ça intéressant quand tu dis on c'est pas incroyable ce qu'on fait. Il y a aussi peut-être ce truc important de séparer performance de l'activité sportive, oui. Parce que sinon c'est comme pour l'alimentation, enfin ça revient à un truc de pression et en fait qui peut-être renforce encore l'anxiété au lieu de venir la calmer comme avec des trucs de respiration.
Mais après la performance, ça peut venir après. Parce que ça reste du plaisir. Genre, ce sera juste des objectifs qui te permettent de continuer à avoir une pratique sportive, par exemple, dans telle activité. Mais vraiment, d'en choisir un truc qui fait du bien. Genre, même, c'est con, mais danser dans son salon, moi, c'est un truc que je kiffe d'amour. Ou genre, même faire du théâtre, ça met du mouvement. Et c'est pas une activité physique, comme on l'entend, mais c'est du mouvement et ça fait du bien au corps et à l'esprit de faire du mouvement, quoi.
La danse.
Ouais,
danser dans ton salon, en fait, de se mettre une musique qu'on a une aime par jour et on danse dessus. Et puis sortir marcher, moi je sais que si je aller marcher avec de la musique sur les oreilles, ça c'est gratuit et ça fait sortir, ça fait du bien et voilà. Marcher dans les parcs, on en parlait tout à l'heure.
Réapprendre à marcher,
ouais.
Et à respirer.
Voilà.
Des choses assez essentielles. Ouais, moi la danse aussi, c'est vrai que moi j'aime beaucoup danser et parfois c'était un associé à des moments de sortie en club, parfois avec des consommations de toxiques et tout ça. Et maintenant, j'y suis allé samedi, j'ai beaucoup dansé, bon, j'ai bu un petit peu, mais du coup, en ne pensant même pas au reste. Et je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et enfin, je savais très bien, mais en tout cas, que ça me faisait du bien. Et au cas, je suis rentré tard, mais j'ai dansé et j'ai... Donc c'était du sport, quoi, pour moi. C'était une activité physique.
Mais clairement, particulièrement, parce qu'en fait, il y a un truc... Genre la désinhibition dans la danse, genre on pense souvent que c'est associé à des toxiques, mais je crois les meilleures soirées en club que j'ai pu faire avec étaient juste avec du son et sans toxique ou quoi que ce soit. Il pouvait y avoir un tout petit peu d'alcool, mais genre plus de drogue,
ouais.
de drogue quoi, enfin ouais. Autre que l'alcool. mais qu'en fait genre il y a beaucoup de gens qui sont, après ça pouvait être dans des périodes un peu up et tout, mais genre des gens autour de moi qui sont étonnés de me voir devant la musique et tout machin, en mode en transe et tout, mais et potentiellement le up doit jouer, on va pas se mentir, mais en fait le truc c'est que juste s'il y a un besoin viscéral de l'être humain à notamment sortir dans ce genre d'endroit et tout, c'est qu'il y a bien l'idée qu'il faut mettre du mouvement dans nos vies et que on peut le faire vraiment quotidiennement et peut-être de manière plus libre, peut-être pas obligé d'aller dans tel endroit pour le faire, quoi.
Une connexion aussi avec les autres, de danser à côté d'autres personnes, sentir une sorte de mouvement, d'énergie globale. Et après, on peut aussi être un peu avoir une anxiété sociale, et ce que je peux comprendre, donc on peut aussi danser tout seul dans son salon.
Et c'est ok.
C'est très bien. J'adore aussi, je le fais. Pas plus tard que tout à l'heure. Yannick, est-ce que
je dois répondre à la question si je danse tout seul dans mon salon?
Non, non,
non, je ne danse pas tout seul dans mon salon.
Toute la communauté Discord,
voilà. Ah bah ouais, non, mais je suis désolé, j'aime pas danser, c'est pas une passion pour moi.
Des thèmes, bien, okay. Tu fais du foot, tu danses autour du ballon.
Je danse autour du ballon, ouais. Ah, le problème, c'est que si je danse autour du ballon et que je le touche pas, il risque d'y avoir beaucoup de buts. Ouais, je fais du foot et je pense que ce qui est important, alors ça rapproche pas totalement avec ce que disait Diane, mais sur le côté, moi, il y a une cohésion, en fait. Il y a une équipe. Enfin, je suis dans le club depuis 2013. Enfin, faut savoir que c'est une passion gardien de but. Et en 2013, je dis, bon, bah, je vais reprendre le foot. Je suis arrivé dans la surface de réparation. Je me dis, mais elle est grande. J'ai vu le but, il est grand. Je dis, waouh. Autant vous dire que mes débuts de gardien en 2013 ou autre, c'était pas terrible du tout. Mais bon, maintenant, je suis content parce que j'arrive justement à être mieux dans ma position et j'arrive vraiment à pouvoir jouer de temps en temps les week-ends. Et ça, c'est dû à la cohésion, en fait. Moi, je vois quand je m'entraîne, les joueurs, ils m'encouragent, quoi. C'est des joueurs que je connais depuis longtemps. Yannick, oh, c'est bien, super, l'arrêt ou autre. Et ça fait du bien, en fait. Moi, j'ai besoin de reconnaissance. Enfin, qui n'a pas besoin de reconnaissance?
Donc, il y a cet aspect de fait social, en fait. C'est vraiment, quoi, dans le.
C'est ça.
Ce qui t'apporte, c'est autant le physique que le social, quoi. Le c'est fait ça. D'être à plusieurs. Une mais connexion. Après,
ouais. Par contre, je ne danse pas, mais je chante.
Voilà.
C'est vrai que
j'ai
entendu
aussi,
chanter.
Hein. En chorale ou tout seul?
Dans un chœur, mais depuis septembre aussi, je prends des cours de chant en particulier.
Et donc, dans le chœur, il y a aussi ce truc du collectif.
Mais après, il faut savoir trouver sa place quand c'est un grand collectif ou autre, mais c'est quand même sympa parce qu'on peut faire quand même des œuvres qui sont assez intéressantes et durant les concerts, on est accompagné par des musiciens qui sont assez. Qui ont accompagné des artistes, donc c'est cool.
On aime bien poser cette question à la fin des épisodes. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un, par exemple, qui en serait au début de son parcours de rétablissement ou qui viendrait d'avoir son diagnostic, ou d'ailleurs à toute personne, parce que je pense que l'hygiène de vie, c'est une question qui concerne vraiment tout le monde, qu'est-ce que vous diriez? Ça serait quoi votre conseil?
Il faut réagir, mais je pense qu'il faut se laisser du temps, malgré tout. C'est quand même un diagnostic lourd. On se retrouve dans un état parfois très... on n'est plus soi-même. Prendre des infos petit à petit. Pour moi, le chemin a été très long, en tout cas. J'aurais aimé plus d'explications de la part des médecins. Parce que je trouve que j'ai eu beaucoup de froideur, moi, dans les médecins que j'ai rencontrés.
Manque un peu d'empathie.
Ouais. Ouais. Mmh. Un peu moins, qu'on soit un peu moins à la chaîne, en fait.
Mmh. C'est des retours que j'ai déjà entendus.
Ouais,
je pense
ouais,
que
ouais.
T'es pas la seule. Il y a sûrement de tout parmi les psychiatres comme personnalité. Mais...
Et du soutien, ouais, pour soi et puis pour la famille aussi, qui reste très souvent sur le carreau, qui ne m'ont pas donné d'infos. Quand on est majeur, les médecins parlent pas à la famille, donc compliqué. Voilà.
Oui, c'est une question dont on a parlé avec des proches dans un épisode. Ok, super intéressant.
Si elle est thérapie familiale, mais après tous les psys le font pas, quoi. Mais intégrer les proches au parcours médical, notamment, c'est tellement précieux. Enfin, ça peut ouvrir tellement de discussions et de compréhension pour les proches. Incroyable.
Et un conseil en matière d'hygiène de vie, Yannick, Diane?
Je dirais apprendre à se questionner soi-même pour savoir ce qu'on souhaite réellement. Et ça peut prendre du temps, hein. C'est pas forcément quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Mais c'est vraiment, ouais, c'est de trouver des tips, des méthodes pour dire, peut-être que je vais essayer ça, peut-être que ça va fonctionner. Le sport, on parlait de méditation, on parlait de... plein de petites choses, en fait, et de se dire, mais si ça fonctionne pas, c'est pas grave, c'est ok. Et c'est ça, en fait, le message que je veux véhiculer, c'est que moi, de mon côté, j'ai le droit d'essayer de danser, de pas aimer danser. Je fais du foot et j'aime le foot. Mais il y a plein de choses que je vais pas aimer et c'est ok. Et du moment que c'est pour mon hygiène de vie, c'est le principal.
Donc expérimenter, tâtonner jusqu'à ce qu'on trouve ses propres trucs, les trucs qui fonctionnent pour soi.
Et même si ça prend du temps.
Ne pas se décourager.
C'est ça.
Se foutre un peu la paix, mais genre penser vraiment que même si c'est un fondamental, genre on pense vraiment au fondamental, on a parlé vraiment sommeil, alimentation, sport, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, les relations sociales, on en a parlé un petit peu, et tout ce qui amène du plaisir dans sa vie, de manière générale, du coup. et du coup, de ne pas se culpabiliser et pas se laisser culpabiliser par des injonctions médicales ou même de ses proches sur ces sujets-là, quoi.
C'est mon hygiène de vie, il n'y a personne qui va me dire « Yannick, tu dois faire ça ». Non, c'est mon hygiène de vie. on est déjà, enfin, je suis déjà assez contrôlé ou autre dans tous les jours. On est contrôlé, donc non. L'hygiène de vie, c'est pour moi et c'est tout.
Et c'est tout. Pour moi, c'est tout.
Bah merci pour tous ces bons conseils et merci à tous les trois pour, de façon générale, vos réflexions, vos témoignages. C'est, comme d'habitude, super intéressant, tout ce savoir expérientiel qui se construit, qui se co-construit autour de cette table. On espère que nos auditeurs et auditrices auront été aussi intéressés que nous. Et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode de La Perche. C'était La Perche, le podcast de la Maison Perchée, réalisé par Anna Klarsfeld et Sylvain Pinault, avec une musique de Blasé et Michael.
On espère que cet épisode vous aura plu, touché, voire même inspiré.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait chaud au cœur. Si notre démarche vous touche, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles ou des mots doux en commentaire sur les plateformes d'écoute.
Tant que vous êtes encore là, on en profite pour dire un grand merci à l'équipe du Palais de Tokyo et à Johan Gourmel. Une bande d'écoute est disponible dans le hameau, un espace ouvert à toutes et à tous à l'entrée du musée. N'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes dans le coin. C'est l'occasion d'aller visiter Toucher l'insensé, une exposition qui s'inspire de la démarche de la psychothérapie institutionnelle et qui interroge le rôle de la création artistique dans le rétablissement et l'émancipation. L'expo se tient jusqu'au 30 juin. Salut.